chemin de vie.
Bienvenue, amis auditeurs. C'est toujours avec plaisir que nous ouvrons ce nouveau volet de chemin de vie. Cette rubrique est diffusée chaque jour sur votre radio préférée à cette même heure, du lundi au vendredi. Vous pouvez aussi la réécouter sur notre site internet, chemindevie.info, chemins au pluriel et le tout en un seul mot.
Merci Jean pour le rappel de ces coordonnées que nous communiquerons à nouveau à la fin de cette rubrique. De quoi est-il question aujourd'hui, Jean ?
Depuis plusieurs jours, nous voyons défiler les rois de Juda et d'Israël dans ce livre des chroniques. Aujourd'hui, nous en verrons plusieurs autres. Ozias, Jotham, Achaz.
Mais avant de faire leur connaissance, écoutons cette chanson de Michael Matina intitulée « Stop ».
Chargé tes journées de tant d'activités, courir sans arrêt t'empêche d'y penser. Tu ne peux décider de ton avenir. Travailler pour gagner et puis mourir. Rempli de désirs, en quête de plaisir, des addictions à ces substitutions, tout pour te distraire, t'attacher sur terre, te faire oublier la réalité. Stop, fais une pause.
Fais une pause.
Écoute ce qu'il te propose.
Écoute ce qu'il te propose.
Jésus veut t'apporter
l'espérance
et la paix. Yeah. Réel sens à ta vie. Des bienfaits
infinis.
Avec lui
en chemin.
Plus de crainte pour demain.
L'empereur Néron a très mauvaise presse et pour de bonnes raisons. Au début pourtant, il était plutôt bon prince et son règne s'annonçait sous de bons auspices, quand tout à coup, il fait volte-face et il a très mal tourné. Devenu grand débauché, il fait mettre à mort tous ceux qui pourraient gêner sa tyrannie, comme sa mère, sa femme, son précepteur qu'il avait éduqué, le fils de l'empereur Claude qu'il avait pourtant adopté et au détriment duquel il avait usurpé l'empire, et il fait assassiner bien d'autres personnes encore. Ensuite, il fait incendier Rome et accuse les chrétiens qu'il persécute cruellement. Finalement, il se suicide en se faisant égorger, et on pousse tous un grand soupir de soulagement. Tout ça est choquant, mais du même gabarit que ce qu'ont fait certains rois d'Israël et de Juda. En fait, même ceux qui reçoivent le qualificatif de « globalement bon » laissent beaucoup à désirer. C'est ainsi que nous arrivons au règne d'un autre roi que les écritures bienveillantes qualifient de juste. Je commence à lire le chapitre 26 du second livre des Chroniques en compressant. Alors, tout le peuple de Juda prit Ozias, âgé de 16 ans, pour le proclamer roi à la place de son père Amatsia. C'est lui qui ramena Elath sous la domination de Juda et qui la reconstruisit après la mort du roi. Ozias était âgé de 16 ans à son avènement et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère se nommait Yécolia. Elle était de Jérusalem, versets 1 à 3. Ozias régna de 792 à 740 avant Jésus-Christ, en commençant par une régence avec son père Amatsia. Il a continué la même politique que son père en combattant les Édomites et en reprenant le contrôle du port qui s'appelle aujourd'hui Elath et qui est à l'extrême nord du golfe d'Aqaba qui donne accès à la mer Rouge. Je continue. Ozias fit ce que l'Éternel considère comme juste, imitant en tout point son père Amatsia. Verset 4. Amatsia a très mal fini, mais il avait très bien commencé. Ozias imite donc l'attitude juste que son père a manifestée durant la première partie de son règne. Il fut un bon roi, mais sans plus, car aucune réforme religieuse n'a eu lieu sous son règne. Par contre, il s'est souvent engagé dans des campagnes militaires. Je continue. Il s'attacha à Dieu tant que vécut Zacharie, qui lui enseignait comment révérer Dieu. Aussi longtemps qu'il resta attaché à l'Éternel, Dieu lui accorda la réussite. Verset 5. Zacharie était un nom très commun. Il s'agit ici d'un conseiller et non d'un prophète, mais il nous est totalement inconnu. Ici encore, le chroniqueur affirme le principe de la rétribution divine. Tant qu'Ozias est fidèle, il est béni de Dieu. Je continue. Ozias fit campagne contre les Philistins et démolit les remparts de Gath, ceux de Yabné et ceux de Asdod. Il fortifia plusieurs villes dans la région d'Asdod et dans d'autres territoires philistins. Verset 6. Ozias oriente ses conquêtes vers le sud et le sud-ouest, c'est-à-dire dans le territoire des Philistins, des ennemis héréditaires d'Israël, un territoire qui allait du sud du port de Jaffa jusqu'à inclure ce qui est aujourd'hui la bande de Gaza. Asdod s'appelle maintenant Ashdod et se trouve à l'ouest de Jérusalem sur la Méditerranée. C'est le plus grand port de transit d'Israël. Un pipeline en provenance de la mer Rouge y débouche. Je continue le texte. Dieu assista Ozias dans la lutte contre les Philistins, contre les Arabes et contre les Maonites du royaume d'Édom. Les Ammonites lui payèrent un tribut et sa renommée se répandit au loin jusqu'en Égypte, car il était devenu extrêmement puissant. Ozias bâtit des tours fortifiées à Jérusalem. Il construisit aussi des tours de garde dans les régions de steppe et fit creuser beaucoup de citernes pour les nombreux troupeaux qu'il possédait. Il favorisa les agriculteurs dans le bas pays et la plaine côtière et les vignerons dans les régions montagneuses et sur le Carmel, car il aimait beaucoup la terre. Versets 7 à 10. La plaine côtière qui est mentionnée dans ce passage est une région de pâturage qui s'étend à l'est du Jourdain et au sud de l'affluent Yabok. Elle appartenait aux Ammonites, mais Ozias l'a conquise. Carmel signifie « verger », mais ce n'est pas la montagne bien connue qui fait partie du royaume des 10 tribus du Nord, mais la localité située dans la montagne de Juda, au sud-est de la ville d'Hébron, et à 35 km au sud-ouest de Jérusalem. Cette cité, qui aujourd'hui s'appelle Al-Khalil-El, est mentionnée dans Josué et dans le premier livre de Samuel. Ce fut la capitale de Juda au début du règne de David. Cette région est propice à la vigne et aux arbres fruitiers, c'est pourquoi Ozias y a encouragé le défrichement de nouveaux terrains. En raison de l'attachement du roi à l'Éternel, il réussit dans tout ce qu'il entreprend. Les tours qu'il construit servent à abriter les gardiens des troupeaux en cas de danger dans ces steppes semi-désertiques. Des tours et des citernes ont été retrouvées lors de fouilles dans ces régions. Dans une citerne de Tel Beth Mirsim, on a découvert un sceau portant le nom d'Ozias. Je continue le texte. Ozias avait une armée bien entraînée. Pour aller au combat, elle avait été organisée en divisions. 2600 chefs de groupes familiaux commandaient une armée de 307 500 combattants toujours prêts à engager le combat avec force pour défendre le roi contre ses ennemis. À chaque campagne, Ozias leur distribuait des boucliers, des lances, des casques, des cuirasses, des arcs et des pierres de fronde. Versets 11 à 14. Sans qu'on sache pourquoi, d'après un texte parallèle, Ozias, qui veut dire « l'Éternel est ma force », s'appelle également Azaria, qui signifie « l'Éternel a secouru ». Le roi assyrien Tiglath-Pileser III mentionne dans ses tablettes qu'il fut arrêté dans sa marche vers l'ouest en 743 avant Jésus-Christ, par une coalition dirigée par Azrio de Yodi, qui se traduit par Azaria de Juda. Je continue le texte. Ozias fit aussi fabriquer à Jérusalem des engins conçus par un artisan habile et destinés à être placés sur les tours et aux angles des murailles pour tirer des flèches et lancer de grosses pierres. Ainsi, sa renommée s'étendit au loin, car il fut merveilleusement aidé jusqu'à ce qu'il soit devenu puissant. Verset 15. Le chroniqueur souligne bien qu'Ozias bénéficie d'une bénédiction divine surnaturelle. Les engins mentionnés semblent être les précurseurs des catapultes et balistes utilisés plus tard par les Grecs et les Romains. Si c'est le cas, cet artisan habile serait donc le véritable inventeur de ces armes qui théoriquement ne virent le jour que 3 siècles plus tard. Je continue le texte. Mais lorsqu'il fut devenu puissant, son cœur se gonfla d'orgueil, ce qui entraîna sa perte. Il fut rebelle à l'Éternel son Dieu, car il pénétra dans son temple pour offrir des parfums sur l'autel des parfums. Le prêtre Azariahou entra derrière lui accompagné de 80 prêtres de l'Éternel qui, avec courage, s'opposèrent au roi Ozias et lui dirent « Ce n'est pas à toi, Ozias, d'offrir l'encens à l'Éternel, mais c'est réservé aux prêtres descendants d'Aaron qui ont été consacrés pour cela. Sors du sanctuaire, car tu commets un acte de rébellion et, de par l'Éternel Dieu, cet acte ne sera pas à ta gloire. » Versets 16 et 18. Un tel incident revient régulièrement dans la vie de tous les rois pourtant qualifiés de « bons » avec peu d'exceptions. Regardons les soi-disant bons rois. David s'est cru tout permis et a pris la femme de son voisin, puis le fait assassiner. Salomon se met à plat ventre devant les fausses divinités de ses femmes. Roboam, fils de Salomon, une fois bien assis sur le trône et devenu puissant, cessa d'obéir à la loi de l'Éternel et tout Israël avec lui. Son fils Abia, c'est mi-figue, mi-raisin. Asa fait de grandes réformes religieuses, enseigne la loi au peuple et est fortement attaché à l'Éternel. Mais attaqué par Israël Nord, il s'allie aux Syriens, puis fait emprisonner un prophète qui lui fait des reproches et persécute les hommes pieux du royaume. Il est puni. Le texte dit « Asa tomba gravement malade et il souffrit grandement des pieds. Toutefois, même pendant sa maladie, il ne s'adressa pas à l'Éternel, mais seulement au guérisseur. Ce roi a souffert 2 ans, mais il ne s'est pas repenti. Josaphat marche très fort avec l'Éternel, puis s'allie par mariage avec l'infâme Achab du royaume du Nord et se lance avec lui dans une opération militaire catastrophique. Mais Josaphat, au moins, revient à de meilleurs sentiments et finit bien. Joas commence très bien, mais il finit son règne par faire exécuter le fils du grand prêtre qui lui avait sauvé la vie. Amatsia commence assez bien, puis s'allonge à plat ventre devant les faux dieux des Édomites, un peuple qu'il a vaincu, et menace de tuer un prophète qui vient lui faire des reproches. Nous en sommes maintenant à Ozias, qui après avoir été béni un maximum par l'Éternel et après avoir expérimenté un succès sans précédent dans tout ce qu'il a entrepris, perd la tête, ne se contrôle plus et devient arrogant. Selon la loi, seuls les prêtres sont autorisés à pénétrer dans le lieu saint du sanctuaire. Mais Ozias, qui se croit désormais tout permis parce qu'il est le grand roi puissant, fait une forte poussée de fièvre orgueilleuse et dit « Écartez-vous, c'est moi, laissez passer !» Il s'est pris pour un roi divin, imitant les monarques païens du Proche-Orient, qui cumulent les titres et fonctions de roi et de prêtre. La conduite d'Ozias, comme celle de ses prédécesseurs, est à faire pleurer. Je finis de lire le chapitre 26. Alors Ozias, qui tenait un encensoir à la main, se mit en colère contre les prêtres. Au même moment, alors qu'il était là, Dans le temple de l'Éternel, près de l'autel des parfums, la lèpre apparut sur son front. Le grand prêtre et tous les prêtres le regardèrent et aperçurent les taches de lèpre sur son front. Ils l'expulsèrent immédiatement du temple, tandis que lui-même se dépêchait de sortir, parce que l'Éternel l'avait frappé. Le roi Ozias resta lépreux jusqu'au jour de sa mort et vécut dans une maison d'isolement comme lépreux, tenu à l'écart du temple de l'Éternel. Son fils Jotham avait la charge du palais royal et gouvernait le peuple du pays. Ozias rejoignit ses ancêtres décédés et fut enterré auprès d'eux sur un terrain de sépulture, car on disait « il est lépreux ». Son fils Jotham lui succéda sur le trône. Versets 19 à 23. Selon la loi de Moïse, la maladie de peau rend rituellement impur quiconque en est affecté, ce qui entraîne automatiquement son exclusion de la communauté. Dorénavant, le roi Ozias est banni et va souffrir l'humiliation pendant les 10 années qui lui restent à vivre. De plus, il n'a pas eu droit à des funérailles dignes de son rang, mais il a été enterré à l'écart des autres tombes royales. Son orgueil lui a gagné le gros lot. Cependant, mis à part cet acte de flagrante rébellion contre l'Éternel pour lequel il fut sévèrement châtié, Ozias fut quand même un bon roi. Pour lui, la mort est donc une grâce car il est délivré de sa maladie, de l'humiliation et peut entrer dans le sein d'Abraham, l'équivalent du paradis pour les croyants de l'Ancien Testament. Nous arrivons maintenant au chapitre 27 qui raconte le règne de Jotham, lui aussi un bon roi, ce qui en fait 3 l'un à la suite de l'autre, un record. Encore qu'ils ont tous eu des écarts de conduite, surtout Amatsia, qui laisse beaucoup à désirer puisqu'il a plutôt mal tourné pendant la seconde partie de son mandat, entraîné lui aussi par un orgueil démesuré. Je commence à lire en compressant tout au long. Jotham avait 25 ans à son avènement et il régna 16 ans à Jérusalem. Il fit ce que l'Éternel considère comme juste, et suivit en tout l'exemple de son père Ozias. Toutefois, il n'entra pas dans le temple de l'Éternel, mais le peuple continuait à se corrompre. Versets 1 et 2. Jotham régna de 750 à 732 avant Jésus-Christ, ce qui inclut 2 régences, une avec son père Ozias, rendu incapable d'exercer le pouvoir royal à cause de la maladie de peau dont l'Éternel l'avait frappé, et l'autre régence avec son fils Achaz. Jotham a vite compris qu'il était prudent de ne pas usurper la prérogative des prêtres. Par contre, il n'a pas mis fin à l'idolâtrie dont le peuple se rend régulièrement coupable en vouant un culte à des faux dieux sur les hauts lieux. Je finis de lire le chapitre 27. Jotham rebâtit la porte supérieure du temple de l'Éternel et réalisa de grands travaux dans le rempart du côté du quartier de l'Ophel. Il construisit aussi des villes dans les monts de Juda, ainsi que des fortins et des tours dans les forêts. Il fit la guerre au roi des Ammonites et remporta la victoire sur eux, de sorte que cette année-là et les 2 suivantes, les Ammonites lui payèrent un tribut de 3,5 tonnes d'argent, 4,5 tonnes de blé et autant d'orge par an. Jotham devint très puissant parce qu'il vivait dans la droiture devant l'Éternel son Dieu. Les autres faits et gestes de Jotham, toutes ses guerres et toute sa conduite sont cités dans les livres des rois d'Israël et de Juda. Jotham rejoignit ses ancêtres décédés et on l'enterra dans la cité de David. Son fils Achaz lui succéda sur le trône. Versets 3 à 9. Selon le principe de la rétribution divine qui revient constamment sous la plume du chroniqueur, Jotham est récompensé à cause de sa fidélité à l'Éternel. C'est ainsi qu'il connaît la victoire dans ses expéditions militaires et la possibilité d'entreprendre des rénovations et de nouvelles constructions. Il n'a pas fait de poussée d'orgueil comme ses prédécesseurs et pourtant il meurt relativement jeune, à 41 ans, sans que la raison nous soit donnée. Le quartier de l'Ophel est situé au sud du temple et du palais royal et constitue le centre de la ville de Jérusalem, au temps des rois de Juda, un peu comme le palais royal pourrait être considéré comme le centre de Paris. À cette époque, les monts de Juda ont une végétation luxuriante, mais au cours des siècles, ils furent entièrement déboisés. Cependant, depuis la renaissance de leur pays et à cause de sa petitesse, les Israéliens, très soucieux de leur environnement, ont replanté des milliers d'arbres. Nous voici arrivés au chapitre 28 qui voit malheureusement l'apparition d'un très mauvais roi sur le trône de Juda. À cette même époque, les Assyriens menacent sérieusement le royaume d'Israël Nord, au point même où ils sont sur le point de le ravager et d'emmener la population en captivité. Je commence à lire le chapitre 28. Akaz était âgé de 20 ans à son avènement, il régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit pas ce que l'Éternel considère comme juste, contrairement à son ancêtre David. Mais il suivit l'exemple des rois d'Israël et ordonna même de fondre des statues en l'honneur des Baals. Versets 1 et 2. Akaz régna de 732 à 715 avant Jésus-Christ, après une régence avec son père Jotham. On peut se demander ce qui a bien pu pousser Akaz à devenir idolâtre. C'est un mystère, car aucun texte ne nous le dit. Le fait qu'il soit comparé au roi d'Israël sous-entend que le sort de Juda va finir par suivre celui de son voisin du nord. Effectivement, le royaume du sud sera effacé de la carte par les Babyloniens en 586 avant Jésus-Christ. Je continue le texte. Akaz offrit des parfums dans la vallée de Ben-Hinnom et fit brûler ses propres fils pour les offrir en sacrifice aux idoles, commettant ainsi la même abomination que les nations païennes que l'Éternel avait dépossédées en faveur des Israélites. Il offrait des sacrifices et brûlait des parfums sur les hauts lieux, sur les collines et sous chaque arbre verdoyant. Versets 3 et 4. Le roi et tout le peuple à sa suite ont fait un pas décisif dans l'horreur. Les Israélites du sud suivent les traces de leurs congénères, leurs frères du nord, en sombrant eux aussi dans la grande décadence religieuse cananéenne. On offrait son fils en sacrifice quand on était dans une détresse extrême. C'était un appel d'aide désespéré aux idoles. Je continue le texte. L'Éternel son Dieu provoqua sa défaite devant le roi de Syrie. Les Syriens le battirent et lui prirent un grand nombre de prisonniers qu'ils emmenèrent à Damas. La victoire sur Akaz fut aussi accordée au roi d'Israël qui lui infligea une lourde défaite. En un seul jour, Pékin, roi d'Israël, massacra en Juda 120 000 hommes, tous de vaillants guerriers parce qu'ils avaient abandonné l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres. Zikri, un guerrier d'Éphraïm, tua un fils du roi, l'intendant du palais royal, et le bras droit du roi. Les Israélites prirent aux Judéens, leurs compatriotes, 200 000 personnes, femmes, garçons et filles, ainsi qu'un butin considérable qu'ils emportèrent à Samarie. Versets 5 à 8. Les rois d'Israël Nord et de la Syrie, qui jusque-là étaient fréquemment en guerre l'un contre l'autre, ont cette fois-ci formé une coalition contre Juda. Un certain nombre de ces campagnes militaires sont des guerres civiles entre Israélites. C'est déjà la troisième fois que Juda est attaqué par les Syriens. Selon la perspective du chroniqueur, la défaite d'Akaz et de Juda est la rétribution immédiate à cause de leur idolâtrie. Cependant, la coalition du Nord n'a pas pu s'emparer de Jérusalem grâce à une intervention de l'Éternel qui continue à protéger la lignée de David à cause des promesses qu'il lui a faites, ce que le prophète Ésaïe explique. Je résume le passage. Sous le règne d'Akaz, Retsin, roi de Syrie, se mit en campagne avec Pekah, roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'attaquer. Mais ils ne purent la vaincre. Quand on apprit à la cour du royaume de David que les Syriens avaient pris position, le roi et tous ses sujets en furent secoués comme le feuillage des arbres de la forêt quand ils sont agités par le vent. Alors l'Éternel dit à Ésaïe, « Va à la rencontre d'Akaz, tu lui diras, écoute-moi, garde ton calme. N'aie donc pas peur et ne perds pas courage devant ces deux bouts de tison fumant. La Syrie, l'est vrai, projette un malheur contre toi, de concert avec le roi d'Israël, et ils ont dit, « Marchons contre Juda, jetons-y l'épouvante, conquérons-le, établissons-y comme roi le fils de Tabéel. » Mais ainsi parle le Seigneur l'Éternel, cela ne tiendra pas, cela ne sera pas. La protection de Dieu de Jérusalem n'empêche pas qu'au passage le royaume de Juda soit ravagé et que les pertes soient très lourdes, 120 000 soldats tués et 200 000 non-combattants capturés et destinés à devenir esclaves. La rébellion contre l'Éternel du roi Akaz et du peuple qui l'a suivi est particulièrement onéreuse sur le plan humain. Les habitants de Juda ont joué avec le feu et ils se sont brûlés. Ils se sont moqués de l'alliance que l'Éternel avait conclue avec eux et les conséquences sont dramatiques. Il leur faudra payer les pots cassés. Cet épisode est un avertissement pour quiconque rejette Dieu et surtout la nouvelle alliance qu'il a conclue avec toute l'humanité en la personne du Christ. Le Nouveau Testament met souvent le lecteur en garde avec sévérité. Je lis un passage. « Combien pire sera le châtiment mérité par celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu et tenu pour profane le sang de l'Alliance et qui aura outragé l'Esprit de la grâce ?»
Il a fallu un geste de Dieu pour resserrer nos liens et de tes mains me rendre amoureux, attaché à ta vie et heureux. Il t'a paré de fleurs et de fruits, un immense verger, je suis rempli d'oiseaux familiers, à te voir leur parler, j'ai compris que tout ce qui n'est pas donné est perdu. Ce qui n'est pas donné est perdu. On a tous deux nos vies à donner et cet amour que Dieu a mis au creux de notre pensée sur ce dos dans les plis rocher. Et je veux compter sur son érosion, sur la force de l'eau d'en haut pour qu'au moment des moissons, notre amour partagé.
Si vous souhaitez recevoir gratuitement le texte de ce jour, appelez aux heures de bureau au 09 50 31 62 62. Appel gratuit depuis une box. 09 50 31 62 62.
Ou connectez-vous sur notre site internet chemindevie.info. Chemins au pluriel et le tout attaché. Il est temps maintenant de nous quitter. Nous vous disons au revoir et à bientôt.